Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. 14 000 signatures dans un pays qui compte 28 millions d'habitants, c'est peu. Mais 14 000 signatures au bas d'une pétition appelant à traiter les femmes comme des citoyens à part entière, c'est déjà beaucoup pour un pays comme l'Arabie Saoudite. Le texte qui circule depuis quelques semaines appelle plus précisément à abolir le système de tutorat qui impose aux femmes d'être chaperonnées pour voyager, travailler, se faire soigner. Signe que les mentalités sont peut-être en train d'évoluer doucement dans cette monarchie pétrolière. Mais il en faudra bien davantage pour considérer ce pays comme un allié tout à fait présentable. En Arabie Saoudite, les droits humains sont régulièrement bafoués. Exécution arbitraire, torture, discrimination religieuse, répression contre les dissidents. Gare à celles et ceux qui ne respectent pas la loi saoudienne, loi islamique, ça va de soi, qui se caractérise par son haut niveau d'intolérance. C'est cette vision de l'islam, le salafisme, qui alimente, avec des nuances bien sûr, des groupes comme Daesh. Alors il ne s'agit pas de dire que l'Arabie Saoudite fournit des bombes aux terroristes, mais elle leur donne des armes idéologiques, une certaine vision du monde dans laquelle les mécréants n'ont pas leur place. Il y a quelques jours, l'Institut Montaigne publiait un rapport sur l'islam français, avec entre autres préconisations pour lutter contre les influences extérieures, celle de revoir notre politique étrangère à l'égard des régimes wahhabites, donc à l'égard de l'Arabie Saoudite. Alors la revoir sans doute, mais jusqu'où? Faut-il aller jusqu'à la rupture? L'Arabie Saoudite est-elle infréquentable? C'est la question que nous allons poser ce soir à Agnès Levallois. Bonsoir.
Bonsoir.
Cette consultante spécialiste du Moyen-Orient, chargée de cours à Sciences Po Paris, membre du comité de rédaction de la revue Confluence Méditerranée, dans laquelle vous avez signé un article au début de l'année, Paris et Riyad, un partenariat de référence. Pour discuter avec vous, Pierre Conessa, bonsoir.
Bonsoir.
Ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, vous venez de publier chez Robert Laffont, Docteur Saoud et Mister Jihad, la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite. Et puis notre troisième invité se trouve au téléphone depuis la Normandie. Il s'agit de Sylvie Goulet. Bonsoir.
Nathalie Goulet,
pas Sylvie, pardonnez-moi.
Heureusement que Pierre est là. Bonsoir.
Qu'est-ce qui m'a pris de vous appeler, Sylvie? C'est parce que vous êtes loin. Vous êtes sénatrice UDI de l'Orne, présidente du groupe d'amitié France-Pays du Golfe au Sénat. Voilà. Et vous avez été, entre autres, rapporteur de la mission d'information sur l'organisation de l'islam en France, rapport qui a été remis dans le courant de l'été. Pierre Conessa. Parce que c'est un petit peu, enfin, en partie en tout cas, votre livre qui nous a donné envie de faire l'émission de ce soir. Est-ce que vous diriez, ce sera ma première question, que lutter contre l'islam radical en France, puisque c'est la politique qui est officiellement menée, ça revient à lutter contre la vision saoudienne de l'islam? En tout cas, ça revient notamment à lutter contre la vision saoudienne de l'islam.
Je crois qu'il faut lever effectivement l'ambiguïté des termes. Le wahhabisme se qualifie lui-même, dès la fondation du royaume, de salafisme. Hein, parce que dans la philosophie des wahhabites, on ne peut rendre hommage à qui que ce soit excepté le Dieu. Donc, il n'est pas question de rendre hommage à Abdelwahab. Donc, la filiation étymologique, c'est le salafisme.
Bon. Donc, quand on lutte contre le salafisme, on lutte contre le wahhabisme, qui est la religion d'État saoudienne.
Ouais, contre la conception religieuse de l'Arabie saoudite. Hein, c'est attention, parce que l'islam est beaucoup plus varié, il y a des tas d'interprétations très différentes, mais cette interprétation-là, qui d'ailleurs a fait l'objet d'un livre extrêmement intéressant d'un type qui s'appelle Redici, sur l'histoire de la Mecque, qui pose la question, comment l'islam sectaire est-il devenu l'islam majoritaire aujourd'hui? Enfin, l'islam qui progresse, c'est un livre très intéressant, parce que même à l'intérieur du monde musulman, des gens se demandent comment le salafisme a progressé. Et moi, j'arrive à la conclusion que, effectivement, au-delà des problèmes sociaux, au-delà des problèmes spécifiques dans chacun des États, cette espèce de soutien constant de l'Arabie Saoudite à la version la plus radicale de l'islam depuis la création du royaume est une des explications principales de cette propagation.
Mais comment se fait-il qu'on ne fasse pas la connexion entre salafisme et wahhabisme? En tout cas, qu'on la fasse aussi peu.
Parce que la question, le problème est dans votre question. L'Arabie Saoudite, c'est tout à la fois cette espèce de Corée du Nord de l'islam, hein, c'est-à-dire la version la plus obtuse, la plus sectaire, la plus raciste, la plus antisémite, la plus misogyne, la plus homophobe. Et j'arrête parce que je crois que la liste, j'ai oublié des termes. C'est la définition d'un théologien musulman. Attention qui m'a dit ça. Hein. Et donc vous avez cette version-là qui fait que effectivement il faudrait qu'on combatte l'Arabie Saoudite, mais en même temps c'est un immense client. Et si jamais vous décidez de sanctionner l'Arabie Saoudite, d'abord les autres pays européens se précipiteront sur le marché pour expliquer que ça tombe très bien. Et puis d'autre part, le fait que vous auriez le champ des pleureuses dans l'armement, dans l'énergie, dans le BTP, dans le luxe. Voilà. Donc vous avez le problématique.
Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez, Nathalie Goulet ?
Écoutez, je connais bien Pierre Conessa, dont j'apprécie le travail, mais qu'est-ce que vous voulez devant un réquisitoire pareil ? Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Qu'on entretient des relations diplomatiques avec un pays membre des Nations Unies, qu'il vaut mieux entretenir des relations diplomatiques et essayer de faire avancer les choses. Vous avez parlé des femmes tout à l'heure, et là je pourrais en parler aussi parce que nous y travaillons beaucoup. Et voilà, alors tout est vrai, mais en même temps, vous pouvez pas faire un package de tout ça exactement, ni dans le même calendrier, ni sur les mêmes sujets. Les droits de l'homme, la charia, le fait que ce pays soit totalement moyenâgeux avec des décapitations dans la rue, etc., qui sont des choses qui sont absolument inacceptables. Bon, et puis aussi une tendance très claire des femmes, du prince Mohammed Ben Salman, etc., de faire avancer ce pays et de le faire progresser. Et si vous voulez, moi je fais partie des gens qui considèrent que la marge de progrès est tellement importante que c'est intéressant d'y participer.
Ça c'est sur la question des droits de l'homme, Nathalie Goulet, mais sur la question de la lutte contre les réseaux djihadistes, dans laquelle vous êtes engagé d'ailleurs. Est-ce que vous considérez que l'Arabie Saoudite n'a rien à voir avec ces réseaux, si ce n'est directement, mais même indirectement sur le plan idéologique, ou bien si ça a à voir, comment est-ce qu'on fait pour limiter, disons, cette influence idéologique ?
Alors, je pense que si vous voulez, là aussi, il y a des questions de calendrier. Les États-Unis ont soutenu Ben Laden en Afghanistan parce qu'il fallait sortir les Soviétiques. À un moment, les Israéliens ont soutenu le Hamas contre Arafat. Il y a des alliances et l'Orient compliqué quand même, vous pouvez pas tout mettre en binaire. Bon, et donc très rapidement, moi ce que je pense, c'est que l'Arabie Saoudite est devenue une cible, qu'elle fait partie maintenant de la coalition, et que effectivement il y a eu des financements des financements personnels qui ont pu apparaître, et Pierre Conessa les connaît très bien et les a décrits. Mais je pense qu'il y a vraiment une volonté en Arabie Saoudite de lutter contre le terrorisme. Beaucoup de mesures ont été prises, notamment sur les questions du financement. Elles sont peut-être trop récentes, mais elles sont néanmoins existantes.
Volonté de lutter contre le terrorisme, Agnès Levallois, volonté de lutter contre les sources idéologiques du terrorisme. Est-ce qu'il faut distinguer ces deux luttes, disons, du point de vue des Saoudiens ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que le pacte politique qui a permis la création de ce royaume d'Arabie Saoudite est un pacte qui a été conclu avec les religieux, la famille royale saoud, avec des religieux. Et donc, il y a une répartition du pouvoir en Arabie Saoudite entre la famille royale qui gère les affaires courantes, qui gère la rente, donc le pétrole, et ce qui est quand même une manne considérable, et l'establishment religieux qui, lui, gère la société d'une façon générale. Et donc là, il y a une vraie question qui se pose pour la famille royale, comment donner une grande marge de manœuvre à l'establishment religieux, parce que cette famille tire sa légitimité d'être au pouvoir par ce pacte passé avec les religieux. Donc comment faire en sorte finalement de lutter contre cette radicalisation, contre ce wahhabisme qui est prégnant, qui est à l'origine, qui est constitutif de la création de cet État saoudien, et de lutter contre cette idée qui est là et cette idéologie qui est là, alors que la famille royale, si elle perd cette légitimité, elle perd tout. Donc elle est vraiment en permanence en train de maintenir cet équilibre pour faire en sorte, si vous voulez, même si elle se rend compte qu'il y a des dérives, et elle sait très bien qu'il y a des dérives, parce que maintenant, elle est ciblée, je veux dire, Daesh aujourd'hui, a dans son collimateur également la famille royale. Donc elle se doit, cette famille royale, de prendre des mesures pour lutter contre le terrorisme et contre Daesh, ou même contre AKPA, Al-Qaïda pour la péninsule arabique, parce qu'elle est visée. Et en même temps, elle ne peut pas aller trop loin, parce que si elle va trop loin, elle se heurte instantanément à cet establishment religieux qui, lui, est complètement imprégné de cette doctrine wahhabite. Et donc, comment faire pour pouvoir lutter et sans perdre la légitimité qu'elle a grâce à ce pacte qu'elle a passé avec ces religieux. Donc, toute la complexité, finalement, de ce royaume d'Arabie Saoudite, c'est ça aussi. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les dirigeants saoudiens sont tout à fait conscients de la nécessité de lutter contre Daesh, sans en mettre forcément d'ailleurs les moyens, parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver en première ligne et qu'ils sont maintenant complètement pris dans la guerre au Yémen, et que donc ils ont plutôt déplacé finalement le curseur dans cette lutte au Yémen plutôt que la lutte contre Daesh. Et donc la question qui se pose aujourd'hui aux Saoudiens, comment maintenir ce grand écart pour garder cette légitimité et se rendre rendre compte et lutter contre le radicalisme qui, maintenant, aussi est en Arabie Saoudite, même au sein de la société, puisqu'on sait qu'une partie des jeunes saoudiens aujourd'hui soutiennent les idées de Daesh.
Pierre Connaisset, est-ce que pour vous, c'est comme ça que se pose la question aujourd'hui en Arabie Saoudite? C'est-à-dire donc un pays qui n'est pas appréhendé d'un seul bloc, avec un pouvoir politique, un pouvoir religieux, qui ont passé un pacte il y a plusieurs décennies de cela, et puis qui essaient de faire vivre tant bien que mal ce pacte, ou bien est-ce qu'on peut parler d'un double jeu du pouvoir politique aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois la volonté de lutter contre le terrorisme, mais sans vraiment le vouloir?
Moi, je prendrais la chose un peu différemment de ce que vient de décrire Agnès Levallois, qui sur le fond est juste, mais il faut insister sur le fait qu'il y a une contradiction structurelle de ce régime. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la dynastie des Saouds est menacée par Saddam Hussein, par Nasser, ils vont appeler les mécréants à l'aide. Et quand ils appellent les mécréants à l'aide, ils ont derrière eux les religieux qui vont leur dire c'est pas bien, etc. Et en échange...
Quand vous parlez des mécréants, ce sont les régimes...
C'est-à-dire les Américains, nous, etc. Voilà. Bon. Et c'est la situation qu'on vit aujourd'hui contre Daesh, j'y reviendrai. Mais donc à chaque fois qu'on en appelle aux mécréants pour venir sauver la dynastie, il faut donner des gages à la hiérarchie religieuse. Donc la diplomatie religieuse est inscrite dans l'ADN du régime. Il est impossible de la faire changer. Comment voulez-vous qu'une dynastie qui compte sur les mécréants pour sauver sa tête puisse imposer à ses oulémas qu'on fasse un islam différent? Et aujourd'hui, contrairement à ce que j'entends, l'Arabie Saoudite ne se bat pas contre Daesh. C'est nous qui nous battons contre Daesh. C'est un nouveau scénario pour sauver la dynastie, puisque les Saoudiens ne participent plus à l'opération aérienne dans l'Alliance. Ils s'en sont retirés pour aller taper sur les chiites.
Ils font quand même partie de la coalition. Non, ils ont quand même quelques appareils et quelques avions dans la coalition, les Saoudiens aujourd'hui.
Quand la coalition se crée, il y avait 16 États. Il y avait 10 pays de l'OTAN plus l'Australie et 5 pays arabes. L'Arabie Saoudite mettait autant d'avions que le Danemark et la Hollande additionnés. Vous voyez l'effort de défense pour un pays qui a 460 avions de combat. Donc ils y sont allés, si vous voulez, du bout des lèvres. Et dès qu'ils se sont engagés au Yémen, ils ont retiré toutes leurs troupes. Donc aujourd'hui, il n'y a plus que les forces occidentales qui se battent contre Daesh. Donc on revient dans le scénario, on va sauver les Saouds. On va sauver les Saouds. Et évidemment, les Saouds devront expliquer à leurs oulémas qu'en fait, ils sont restés fondamentalement wahhabites.
Donc ça, c'est important ce que vous nous dites. Vous nous dites, donc, en gros, l'Arabie Saoudite n'est pas un partenaire aujourd'hui dans la lutte contre l'État islamique en Syrie. Nathalie Goulet.
Écoutez, moi, je ne sais pas ce que j'ai entendu, mais et c'est pas non plus ce qui ressort de la coalition des 34 pays initiaux. Maintenant, j'ai pas vérifié l'évolution du placement des armes. Alors, je voudrais quand même préciser que je suis pas l'avocat de l'Arabie Saoudite dans ce débat. Hein. Je suis pas là uniquement pour balancer des choses un peu plus agréables. J'essaye simplement.
C'est pas comme ça qu'on vous a non plus proposer
non,
l'émission,
non, non, mais,
je vous rassure.
Non, mais parce que si vous voulez, on connaît les limites de l'exercice avec ce pays, mais il faut aussi il y a des changements de mentalité en Arabie Saoudite. Et quels que soient les vices initiaux dont Pierre Connaissa a parlé, ce que votre autre invité a mentionné, qui sont parfaitement justes, il y a une très grande complexité, mais il y a aussi une remise en question, et notamment avec l'ouverture à l'égard de l'Iran, qui est une remise en question vraiment fondamentale du pouvoir saoudien. Je mentionne le prince Mohammed Ben Salman, que j'ai longuement rencontré, et qui a vraiment une vision de modernisation et de changement de son pays. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce que c'est simplement une vitrine, etc. Il y a aussi quelque chose qui a changé, c'est l'opinion reçue de l'extérieur sur le régime saoudien qui jusqu'à maintenant prenait ça. Enfin, je veux dire, on avait le sentiment que les critiques ne le touchaient pas. Et je pense qu'il y a une très grande remise en cause aussi de l'image de l'Arabie Saoudite dans le monde. Et donc ces remises en question pour un État qui est un État lourd, qui n'est pas un État particulièrement facile à gérer, dont on connaît la complexité, ça crée des lourdeurs supplémentaires, mais aussi des très grosses inerties. Donc je crois qu'on est dans cette période d'évolution-là. C'est mon sentiment, je peux me tromper, mais on est quand même dans cette période d'évolution avec, vous comprenez bien qu'avec un historique pareil et un passif tel que vos autres invités l'ont décrit, vous imaginez la lourdeur et la pesanteur, et je pense notamment aux questions des femmes dont vous avez parlé, qui travaillent énormément, notamment dans les chambres de commerce, pour promouvoir la lutte des femmes dans leur ensemble et pas uniquement d'une certaine classe de femmes.
Et juste un mot Nathalie Goulet, est-ce que vous diriez que ces évolutions-là, la France notamment, mais aussi l'Europe sans doute, a intérêt à les accompagner plutôt que de combattre ce régime?
Ah mais moi je crois qu'il faut faire les deux. Il faut combattre la tendance extrémiste et des financements qui seraient mal dirigés, etc. Et en même temps, il faut accompagner tout ce qu'on peut accompagner, parce que vous comprenez bien qu'un régime comme le régime saoudien, appliquant une charia dure, par rapport à nos critères démocratiques européens, etc., vous voyez la marge de progrès. Donc que ce soit pour le droit des femmes, que ce soit pour les libertés, que ce soit pour les droits de l'homme tout simplement, la marge de progrès est tellement importante, je pense qu'on a intérêt à peser aussi dans cette évolution. Mais à combattre en même temps, c'est-à-dire que ça doit se faire sans compromission. Et le fait d'y participer ne veut pas dire je crois pas que je crois que les Saoudiens ont compris qu'ils pouvaient pas tout acheter.
Agnès Levallois.
Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que il me semble que l'Arabie aujourd'hui est profondément déstabilisée par l'accord qui a été signé entre les Américains, enfin la communauté internationale et l'Iran. Ça, c'est quelque chose. Moi, j'étais à Riyad au mois d'avril et j'étais frappée de voir que dans tous les entretiens avec un think tank saoudien, la seule chose qui revenait en boucle pendant nos entretiens, c'était l'Iran, c'était la menace que représente l'Iran, avec le sentiment pour les Saoudiens que le retour de l'Iran sur la scène diplomatique régionale et le soutien des Américains dans ce cadre-là est une menace pour Riyad. Ça veut dire que les Américains peuvent les lâcher et que, comme le disait Pierre Conessa tout à l'heure, c'est vrai que si les Américains lâchent les Saoudiens, ils se sentent tout nus, ils n'ont plus rien. Donc il y a une vraie inquiétude, je crois, aujourd'hui, de ce royaume saoudien vis-à-vis de ces évolutions géopolitiques régionales avec le retour de l'Iran. Ça, c'est un élément extrêmement important. Se greffe là-dessus un autre élément qui peut apparaître comme élément aussi de fragilité, c'est le fait qu'aujourd'hui, et la sénatrice en a parlé, l'importance que prend Mohamed Ben Salman, qui est le fils, un des fils du roi, qui est le numéro 2 dans la succession, et qui aujourd'hui joue sa crédibilité dans la guerre au Yémen, puisque le prince héritier, c'est Mohamed Ben Nayef, c'est le cousin de Mohamed Ben Salman, qui lui a déjà fait ses preuves en tant que ministre de l'Intérieur dans la lutte contre le terrorisme. Et là-dessus, on a un Mohamed Ben Salman qui est beaucoup plus jeune, qui est le fils du roi, et qui essaye de s'imposer sur la scène politique saoudienne en étant ministre de la Défense et donc en se lançant dans cette opération yéménite. Opération yéménite qui est beaucoup plus coûteuse, beaucoup plus compliquée que ne le pensait le jeune prince en se lançant dans cette opération.
Coûteuse et d'ailleurs lui, pas seulement en pétrodollars, mais coûteuse aussi en vie, puisqu'on estime qu'il y a 10 000 morts depuis le début de ce conflit, enfin depuis le début de l'intervention saoudienne en mars 2015.
Et le Yémen est un pays qui aujourd'hui est complètement, enfin en grande partie détruit, avec une situation humanitaire dramatique.
Voilà, bon. qui n'est peut-être pas semblable à celle de la Syrie, mais enfin, en tout cas, on pourrait s'y intéresser davantage,
sans doute. Et là, Mohamed Ben Salman joue sa crédibilité dans cette guerre au Yémen. Et aujourd'hui, sa crédibilité, elle est un peu mise à mal, parce que justement, il n'y a pas de résultat et il n'y aura pas apparemment de possibilité pour les Saoudiens de gagner cette guerre au Yémen. Donc, on a un jeune prince qui espère bien prendre la place du roi, même s'il a son cousin qui est avant lui dans l'ordre de succession. Et donc, ça le contraint aussi, d'un côté, à s'ouvrir à l'extérieur, parce qu'il se rend bien compte qu'il faut effectivement changer l'image du royaume. C'est vrai ce que dit la sénatrice, c'est-à-dire qu'il y a une volonté chez les Saoudiens aujourd'hui d'améliorer leur image à l'extérieur. Il y a des sociétés de communication qui travaillent à changer cette image, parce qu'ils partent de très très loin. Et en même temps, il y a toujours cette question qui se pose quand on parle de l'Arabie Saoudite, jusqu'à quel point ils sont complaisant, jusqu'à quel point ils ont laissé faire, ils laissent faire, et jusqu'à quel point la question radicale se pose en Arabie Saoudite avec une société, là je crois qu'il y a un hiatus quand même très important, et je pense qu'il faut vraiment le souligner, entre les élites, la famille royale et ce que vit la société saoudienne, comment la société saoudienne vit cela.
Pierre Conessa, cette fragilisation de l'Arabie Saoudite dont nous parle Agnès Levallois, est-ce que c'est une fragilisation dangereuse? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir par réaction, un régime qui se durcit, qui pourrait être tenté de se radicaliser dans sa façon d'exister à l'extérieur en recommençant, si tant est qu'il n'est jamais arrêté, à alimenter de manière idéologique mais aussi financière des réseaux qui sont dangereux pour notre sécurité.
Je crois qu'il y a deux questions dans votre interrogation. D'abord, la question financière me paraît un faux problème. Pour une raison assez simple, c'est qu'il est extrêmement facile d'avoir de l'argent pendant le Hajj. Il suffit que vous montiez une organisation humanitaire expliquant qu'il faut augmenter la taille d'une mosquée au Pakistan ou ouvrir une école islamique au Sri Lanka. et vous obtenez de pèlerins qui sont là dans des dispositions religieuses tout l'argent que vous voulez. La question de l'argent du terrorisme, c'est pas du tout l'argent du crime organisé. L'argent du terrorisme, c'est de l'argent propre qui devient sale, tandis que le terrorisme, c'est de l'argent sale qui doit être propre. Et vous ne savez si c'est de l'argent qui finance le terrorisme que si vous savez si l'ONG qui la recueille va effectivement l'utiliser pour un acte terroriste. Donc, il est impossible de lutter contre le financement de l'argent du terrorisme. On ne peut lutter que sur le terrain idéologique. On va effectivement avoir autant d'arrêts. Vous savez, quand par exemple les Américains, après le 11 septembre, ont demandé aux Saoudiens de fermer un certain nombre, de notamment la fondation Al Haramain, mais ils leur ont demandé de fermer 345 ONG. C'est vous dire que comment voulez-vous contrôler 345 ONG, donc quand on soupçonnait qu'ils finançaient le terrorisme. Donc, arrêter l'argent du terrorisme n'est pas possible. Est-ce que le régime va se durcir ou pas? C'est une question complètement superficielle. Aujourd'hui, il y a un programme de déradicalisation en Arabie Saoudite qui a un taux de réussite de 95%. Pour une raison assez simple, c'est qu'il transforme des salafistes en wahhabites. Avec une seule interdit, c'est ne faites pas d'attentats sur le territoire. Écoutez, de qui se moque-t-on? Ce n'est pas vrai. Ce régime, quand il y a eu en 91, rappelez-vous, des femmes ont conduit dans la rue. Les femmes ont conduit dans la rue. On était en 91, on est en 2016. On a beaucoup progressé puisqu'elles ne peuvent toujours pas. Donc, c'est le pays de la réforme immobile. C'est-à-dire qu'on vous dit effectivement, mais ce pays change. Simplement, c'est effectivement comme un paysage d'horizon. C'est-à-dire vous attendez que l'horizon se courbe comme la Terre. Ce n'est pas vrai. C'est un pays qui ne bouge pas. Il est face à une crise qu'il va gérer avec des méthodes qu'il a souvent pratiquées. C'est-à-dire qu'il va expulser 1 million de travailleurs étrangers pour essayer de saoudiser les emplois, mais ça ne marche pas.
Alors, vous dites quoi finalement? Puisque la méthode douce ne fonctionne pas, autant essayer la méthode dure?
Non, ça veut dire qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur ce pays. Parce qu'effectivement, quand on est reçu au plus haut niveau, les gens sont polis, gentils, courtois, ils parlent parfaitement l'anglais, tout ce qu'on veut. Mais fondamentalement, la structure même de ce régime empêche toute réforme. Et même aujourd'hui, la véritable contestation du régime est une contestation radicale de religieux qui demandent en fait un système à l'iranienne. C'est-à-dire un pouvoir accru des religieux pour contrôler le politique. C'est la sarwa.
Alors, il y a deux choses, je crois. Il y a quand même un élément au sein de cette société saoudienne dont on ne parle pas parce qu'on a très peu accès à elle. Et ça, moi, ça m'a frappé quand je suis allée en Arabie Saoudite. C'est qu'on s'aperçoit que cette société passe son temps à contourner ces règles extrêmement rigides, évidemment, de la société. Les femmes, par exemple, évidemment, à Riyad, elles ne conduisent pas. Mais en dehors des villes, elles conduisent parce que de toute façon, c'est une question de survie parce qu'elles n'ont pas les moyens d'avoir un chauffeur parce que sinon, ça coûte quand même très cher. Et donc, j'ai vu plusieurs femmes qui m'ont dit, mais évidemment, à Riyad, parce qu'il y a des moutawas, c'est la police religieuse qui surveille, mais dès qu'on sort des villes, les femmes conduisent, parce que de toute façon, il faut bien vivre et qu'on trouve... Donc il y a des accommodements, il y a des arrangements en permanence, et je crois ce qui serait intéressant, ce sur quoi il serait intéressant de travailler, si on pouvait le faire, c'est travailler sur la société. Parce qu'il se passe des choses au sein de cette société qui est tout à fait consciente.
Sauf qu'elle n'était pas suffisamment structurée pour qu'on puisse s'appuyer dessus.
Non, ce sont des initiatives, c'est chacun essaye de se débrouiller et de vivre au mieux en contournant ces règles et ces contraintes qui sont extrêmement lourdes. Mais il se passe des choses au sein de cette société. Est-ce qu'à un moment il y a des choses qui vont pouvoir émerger? Pour l'instant, je serais incapable de le dire parce que je n'ai pas fait suffisamment de terrain. Mais je crois qu'il y a vraiment, mais comme dans beaucoup de pays et dans beaucoup de sociétés, il faut dissocier effectivement la pratique au niveau de l'État avec tout ce qu'on vient de décrire et en même temps une société qui évolue, qui avance et qui essaye de faire en sorte de contourner les règles qui sont les plus embêtantes pour la vie au quotidien.
Bon, on voit bien, Nathalie Goulet, que par rapport à un pays qu'on considère quand même, c'est vrai, généralement comme un tout, que c'est beaucoup plus complexe que ça, évidemment, il y a le pouvoir politique, il y a le pouvoir religieux, puis il y a le pouvoir mais de la société. Mais est-ce que la société est un pouvoir sur lequel, aujourd'hui, on peut miser pour essayer de faire évoluer ce pays?
Alors, écoutez, moi, je rejoins ce qui vient d'être dit, et je pense que la clé d'une partie de l'évolution, je pense pas que ce soit l'évolution immobile, je crois que c'est pas très juste de dire ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé autour, et je l'ai dit avant Agnès Levallois sur l'ouverture à l'Iran qui est un traumatisme, enfin c'est bon. Donc si vous voulez, ce genre de choses fait quand même bouger les sociétés et les dirigeants, mais les femmes sont à l'évidence un moteur que la société saoudienne ne pourra pas arrêter. Moi, j'en rencontre souvent, j'y vais régulièrement, elles viennent au Sénat, je les rencontre ailleurs, elles font du sport, elles ont complètement investi les chambres de commerce. Il faut savoir que c'est la clé de leur émancipation, le business. Les femmes sont au plus haut poste à la chambre de commerce de Jeddah et d'ailleurs, et elles veulent évoluer tout ensemble. Elles disent, nous, on voyage, on a des situations, etc. Nous, on veut évoluer pour toutes les femmes saoudiennes en même temps. Il y a un mouvement très fort des femmes saoudiennes, et je pense que c'est par les femmes, comme souvent, que les changements vont se faire. Mais moi, je crois qu'il y a quand même, mais il n'y a pas de rue saoudienne, si vous voulez. La société en elle-même, elle n'est pas du tout structurée. On peut pas, vous pouvez pas dupliquer ce qui existe dans nos sociétés, même pas dupliquer ce qui existe aux Émirats, par exemple, Arabes Unis, ça n'a rien à voir. La société saoudienne est vraiment unique en sa complexité et aussi dans sa structure, c'est très particulier. Donc on peut pas non plus faire du décalcomanie, c'est pas possible.
Vous me disiez tout à l'heure, Pierre connaît ça hors antenne, l'Arabie saoudite, c'est la Corée du Nord du Moyen-Orient.
De l'islam, pardonnez-moi.
Est-ce que justement, alors du point de vue de la société, est-ce que cette comparaison-là, elle est intéressante?
Non,
dans
non,
la mesure, on voit qu'il n'y a pas vraiment de force qui est en mesure aujourd'hui de faire évoluer le régime, et en tout cas d'être aidé par des forces extérieures.
Non, moi je faisais cette appréciation sur le terrain religieux. Je vous cite une anecdote que j'ai vécue. En Algérie, j'ai dit cette phrase. J'ai dit aujourd'hui, la principale menace sur l'islam aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite. Le ministre de la Culture s'est levé pour me saluer. Il faut croire que dans le monde arabe, si vous voulez, soit notre analyse très nuancée n'a pas cours. Parce qu'ils savent très bien que le salafisme est aujourd'hui une force de déstabilisation très puissante. Moi, je veux bien que ça évolue. C'est vrai, effectivement. Simplement, je me rappelle après 91, quand des femmes conduisaient, on a fait pression sur les hommes en disant « Ah, tu tiens même pas ta femme ». Bon, quand vous êtes dans une société comme celle-là, vous pouvez toujours expliquer que ça évolue, mais ça évolue lentement. Je rappelle deux épisodes quand même que vos auditeurs doivent connaître. Raif Badawi, 1000 coups de fouet, 10 ans de prison pour avoir simplement sur un blog discuté avec Dieu pour dire qu'il avait des interrogations. Voilà, et le fils et le neveu Al-Nimr.
C'est extrêmement récent ça. Hein, mm-hmm.
Voilà. C'est extrêmement récent. Et donc, il n'a pas fini ses 1000 coups de fouet. Le pauvre mourra avant de faire les 10 ans de prison en plus auxquels il est condamné. Et le neveu Al-Nimr, qui lui est effectivement condamné parce que chiite, et puis son oncle a été lui décapité, et on est dans cette société-là. Donc, ce n'est pas la société qui évolue. Quand on fait pression ou quand on discrètement fait remarquer que ce n'est pas bien, il s'en fiche.
Non, mais ce qui est vrai, la question qui se pose, et on le voit à travers l'évolution des femmes dont parlait Nathalie Goulet, c'est une réalité. On fait référence aux mêmes femmes qu'on a rencontrées, qui sont des femmes battantes, qui bougent et qui sont dans les affaires et qui sont extrêmement efficaces. C'est vrai, et elles-mêmes reconnaissant qu'elles font partie d'une élite, et donc elles ont une capacité à faire des choses, ce qui n'est pas le cas de la saoudienne moyenne. Mais c'est vrai que la question qui se pose, et elles en sont tout à fait conscientes, c'est qu'elles se heurtent à ces religieux qui, eux, ne veulent rien lâcher. Et donc, toute la question qui se pose, c'est quel est le rapport de force, et dans le rapport de force aujourd'hui de cette société vis-à-vis des religieux, c'est vrai que le rapport de force n'est pas en faveur de ces femmes ou de cette partie de la société qui veut bouger, parce qu'elles sont face à des religieux qui, eux, sont extrêmement conservateurs, et le mot est faible, bien évidemment, et qui surtout ne veulent absolument rien lâcher du pouvoir qu'ils ont obtenu de ce pacte passé avec la famille. On revient toujours à cette question de pacte, et donc ces religieux ne veulent rien lâcher parce que pour eux, c'est vraiment essentiel de garder ça, sinon ils vont petit à petit tout perdre. Donc la question qui se pose, comment ce rapport de force peut évoluer? Est-ce que ça peut évoluer parce qu'il y a des soutiens extérieurs pour faire bouger les choses, ou est-ce qu'un soutien extérieur est contre-productif parce que les Saoudiens ne supporteront pas des ingérences extérieures? Donc toute la question est là, c'est comment aider cette société à pouvoir être plus forte dans ce rapport avec ces religieux qui, j'insiste, eux, évidemment, ne veulent en rien bouger.
Alors justement, sur cette question des soutiens extérieurs, et notamment la façon dont la France, qui est un allié de longue date de l'Arabie Saoudite, pourrait agir pour soutenir ces forces mouvantes, disons, en Arabie Saoudite. On a quand même plutôt l'impression que, pour l'instant, la diplomatie française, quand elle parle du respect des droits de l'homme et des droits des femmes en Arabie Saoudite, elle est relativement discrète. Je voudrais vous faire écouter un extrait d'une table ronde qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. C'était fin août au Quai d'Orsay, lors de la semaine des ambassadeurs. Voilà, c'était une table ronde ouverte au public qui était animée par notre consoeur du Figaro, Isabelle Lasserre. Et à un moment donné, il y a dans la salle une question à propos de l'Arabie Saoudite et du Qatar d'ailleurs. Et écoutez la réponse, ou plutôt l'absence de réponse.
Messieurs, dames, bonjour. Je représente une chaîne YouTube de hackers où on s'intéresse sur les questions de terrorisme, de finance, de hacking. La question concerne la schizophrénie diplomatique française concernant la position avec le Qatar, l'Arabie Saoudite. Est-ce que la diplomatie française n'est pas devenue une diplomatie d'opportuniste par rapport à une crise financière qui est dramatique pour notre pays.
Alors, ce qui est dommage, c'est que l'ambassadeur de France en Arabie Saoudite, qui devait être sur ce plateau, est en retard. Il a dû sentir votre question, à mon avis. Alors, c'est pas très sympa pour ses petits camarades. Qui va répondre ? Philippe Séton, je sens quand...
Non, je vais répondre parce que d'une certaine façon...
Voilà, Philippe Séton qui est un diplomate. Alors, comme en radio, le silence est un peu l'ennemi juré, on a coupé une partie de ce silence parce que sinon ça durait beaucoup plus longtemps. Est-ce que c'est un silence, Pierre Conessa, qui en dit long sur les embarras justement de la diplomatie française? Bon, on va pas câbler ces ambassadeurs qui étaient là, qui étaient pas des ambassadeurs de France en Arabie Saoudite. Enfin, on sent bien que c'est pas des réponses très spontanées dès qu'on parle de ce régime. Hein.
Non, mais je voudrais qu'on arrête le procès des ambassadeurs. Par nature,
oh, c'est pas un procès,
la diplomatie. Non, mais par nature, la diplomatie, c'est de parler avec tout le monde. C'était un principe gaullien. Rappelez-vous, De Gaulle disait on reconnaît les États et pas les régimes. Bon. Et on disait à l'époque, c'est pas bien, les droits de l'homme, etc., etc. Mais il faut être réaliste. Les Anglais considèrent qu'ils n'ont pas de principe, ils ont des intérêts. Et donc, eux n'ont pas ce genre de débat. Donc, pour nous, ça pose une question fondamentale. Ou bien on arrête de donner des leçons de droits de l'homme à la planète entière, en oubliant l'Arabie Saoudite, ou alors, effectivement, on en donne aussi à l'Arabie Saoudite. C'est la question de cet auditeur. Et effectivement, il a raison.
Nathalie Goulet ?
Non, mais moi, je pense que, d'abord, c'est vrai qu'on donne beaucoup de leçons, c'est vrai qu'il y a des tas de choses qu'on pourrait faire, mais c'est vrai aussi que si on doit travailler qu'avec les grandes démocraties, ça va devenir extrêmement complexe, on va travailler avec la Suisse et le Luxembourg, et encore s'ils sont pas sur les listes noires des paradis fiscaux. Donc, je veux dire, bon... Il faut distinguer un peu les choses. Moi, je suis toujours un peu écartelée sur ces questions. J'ai posé une question d'actualité au moment de Rafik Badawi, précisément parce que je considérais qu'on n'élevait pas la voix assez fort pour lutter contre ce type de pratique. Mais il faut aussi voir à quoi on s'adresse. Je dirais, si on est les seuls à travailler dans ce sens-là, je pense qu'on a plutôt intérêt à travailler aussi avec nos collègues européens qui sont par ailleurs des concurrents économiques. Pour essayer de faire avancer. Mais encore une fois, on est sur une structure saoudienne qui a tellement peur du mouvement, parce qu'ils ont peur que c'est comme un mikado, je veux dire, si on touche quelque chose, tout va s'effondrer. Et moi, je pense qu'il faut y aller et fixer quelques objectifs. Je crois qu'on devrait pouvoir, dans cette période de grande redistribution des cartes autour du Golfe persique ou arabique, selon de quel côté on se place, historiquement persique, précisément ce qui est en train de se passer dans le Golfe, et puis vous avez encore autre chose, vous avez une nouvelle diplomatie saoudienne autour de la Turquie, autour de l'Égypte, autour d'Israël, parce qu'Israël est en train de devenir le meilleur ami de l'Arabie Saoudite, quand même, il faut quand même le rappeler. Donc tout ça n'est pas aussi simple.
Agnès Levallois, Manuel Valls explique que si la France finalement n'élève pas la voix davantage sur la question, en particulier des droits humains, en tout cas ne l'élève pas davantage publiquement, elle le fait au contraire dans le cadre de relations plus privées pour justement maintenir cette relation privilégiée qu'elle a avec le régime saoudien. Est-ce que vous y voyez une forme de, comment dire?
Oui, alors,
je ne sais pas comment vous qualifieriez d'ailleurs cette position.
Ce qu'il faut peut-être rappeler d'ailleurs, c'est le fait que depuis que le président Hollande est arrivé aux affaires, c'est vrai qu'il a noué une relation privilégiée avec l'Arabie Saoudite. On voit bien que c'était une réaction face à la relation privilégiée qui existait du temps de Sarkozy avec le Qatar. Donc il y a une volonté de rééquilibrer les relations à l'arrivée de François Hollande en se disant le tout Qatar de Nicolas Sarkozy est quand même problématique parce que le Qatar effectivement c'est un pays très riche mais c'est quand même un tout petit État, un micro-État par rapport à l'Arabie Saoudite qui est la puissance régionale avec l'Iran. Donc,
il ne l'a pas fait uniquement par anti-sarkozisme.
Non, il l'a fait en rétablissant, se disant c'est une puissance régionale et c'est vrai que le tout Qatar était quand même absurde, ou en tout cas ne correspondait pas aux intérêts de la France et que le marché quand même saoudien est bien plus important que le marché du Qatar. Donc il faut rééquilibrer. Et donc on a vu la nouvelle équipe foncer tête baissée vers l'Arabie Saoudite. François Hollande a fait son premier voyage en Arabie Saoudite. Depuis, il y a eu un nombre de visites absolument considérable. considérable entre les deux pays, avec l'idée évidemment que les intérêts économiques pour nos industries, il fallait absolument les garder, et que si on pouvait faire du business, c'était très très bien. Là où moi je pose une question, c'est que ce qui me frappe, c'est qu'il y a eu toutes ces démarches diplomatiques, il y a eu tous ces voyages, toutes ces promesses, mais il y a eu très peu de choses qui se sont concrétisées.
Vous voulez dire au niveau commercial?
Au niveau commercial. Au niveau commercial. Donc, on se dit, effectivement, il faut aller en Arabie Saoudite parce que c'est un marché, donc, et on peut, dans la discrétion de certains entretiens, parler des droits de l'homme, pas de façon publique parce que ça va gêner les Saoudiens et qu'on n'est pas là pour gêner les Saoudiens. Ça, pourquoi pas, si vraiment les contrats aussi se concrétisaient d'une façon significative.
Donc, vous dites, on s'assoit sur les droits humains, on ferme un peu les yeux sur l'impact idéologique, on va dire, de l'islam vu par les Saoudiens, et ça ne nous rapporte rien.
Pas autant que ce qui est affiché, tel que, en particulier, Manuel Valls, lorsqu'il était en Arabie Saoudite, lors d'une commission mixte avec des hommes d'affaires, a tweeté qu'on avait 10 milliards de dollars, et c'est marrant, c'est toujours le même chiffre qui ressort, sans qu'on sache véritablement ce qui s'est concrétisé. Donc là, je pense que ça pose une vraie question, et ça pose la question de savoir que la seule façon de se sortir de cette relation avec l'Arabie Saoudite, me semble-t-il, ce serait d'avoir une vraie politique européenne pour éviter effectivement que chacun essaye de tirer ses marrons du feu en se disant, moi de toute façon, si je renonce à l'Arabie Saoudite, c'est mon voisin qui va rafler les marchés, et ça c'est pas possible parce qu'on a besoin effectivement de ces marchés dans la situation économique qui est la nôtre. Donc si on veut se sortir de ça et sortir de cette hypocrisie dans laquelle nous sommes, à savoir, on parle des droits de l'homme sans vraiment en parler, mais on veut faire business et on sait pas très bien comment faire, il faudrait vraiment qu'on ait une politique au moins européenne pour sortir de cette ambiguïté et pouvoir poser des principes et amener les Saoudiens à travailler avec nous sur ces principes sans effectivement tout perdre.
C'est l'Europe qui peut nous aider à sortir de l'ambiguïté à l'égard de l'Arabie Saoudite, Nathalie Goulet ?
C'est aussi, mais moi j'ai eu un très long entretien avec Mohamed Ben Salman, on a parlé très clairement de la peine de mort, on a parlé très clairement de la torture, on a parlé très clairement des droits de l'homme, je vais aussi parler des salariés d'une société libanaise Saoudi OG.
Il vous répond quoi quand vous lui en parlez ?
Il a payé 17 millions d'euros d'argent qu'il ne devait pas à des salariés français qui n'étaient pas payés au titre de la soft diplomatie parce qu'il voulait redorer son image à l'égard de la France et avoir un geste à l'égard de ces salariés qui avaient été maltraités par leur employeur libanais. Donc la soft diplomatie, ça marche aussi. Mais je pense qu'effectivement, une démocratie européenne aurait plus de chances de fonctionner. Je crois que Rachida Dati et d'autres ont au Parlement européen initié un certain nombre de choses. Je crois que voilà qu'il faut aller, mais pas les leçons, pas le chantage, ça marchera pas. Puis de toute façon, on a d'autres pays qui malheureusement ne respectent pas les droits de l'homme, c'est d'ailleurs la majeure partie d'entre eux. Et je crois que de ce point de vue-là, il faut une politique claire et non ambiguë. Je pense qu'on est tout à fait en position et nos alliés et partenaires saoudiens sont tout à fait en état de comprendre ce qu'on leur dit. Croyez-moi, ils savent très bien de quoi on parle.
Pierre Conessa, pour vous, jusqu'où faudrait-il aller dans la prise de distance, peut-être, enfin, je ne sais pas comment il faut dire, avec l'Arabie Saoudite aujourd'hui?
D'abord, je voudrais rendre hommage à Nathalie Goulet, qui est probablement la sénatrice qui a posé le plus de questions sur des sujets difficiles auxquels elle n'a jamais obtenu de réponse. Elle l'a posé sur effectivement le cas de Raif Badawi, et elle a posé souvent des questions qui, encore une fois, sont restées sans réponse. Elle jouait son rôle de sénatrice, ça il faut lui rendre hommage. La deuxième chose que je voudrais quand même faire remarquer, c'est que l'Arabie Saoudite, c'est pas toute la péninsule. Il suffit que vous traversiez, que vous alliez aux Émirats Arabes Unis, c'est une ambiance totalement différente, une grande tolérance, une acceptation de la différence de l'autre, etc. C'est pas le Qatar, c'est les Émirats Arabes Unis. Et dernière chose, il y a des sujets dont on peut discuter avec les Saoudiens pour les obliger à répondre. Pourquoi n'acceptent-ils pas de réfugiés? C'est une question centrale. Nous sommes en plein dedans. Pourquoi est-ce que les Saoudiens n'acceptent pas de réfugiés? Parce que dans les conventions internationales qu'ils ont refusé de signer, ils sont obligés d'accepter tout réfugié, quelle que soit leur religion, leur race, leur couleur de peau, leur sexe. Vous croyez que les Saoudiens accepteraient qu'il y ait des chrétiens ou des yazidis qui viennent se réfugier en Arabie Saoudite?
Donc c'est quoi le bon? Non, c'est pas ça la question. S'ils refusent des réfugiés, c'est beaucoup plus qu'ils veulent pas que ces réfugiés qui viennent d'un pays comme la Syrie, par exemple, avec une conscience politique, viennent apporter cette réflexion politique. C'est beaucoup plus ça qui est en
surtout
cause.
Surtout s'ils sont chrétiens.
Du coup, c'est ça quoi le Ce serait quoi le moyen de pression efficace, mais juste vraiment
mais
d'un
justement,
mot, Pierre
c'est
Conessa.
Une position européenne sur le thème sortons de cette espèce d'hypocrisie. On est face à un problème gigantesque en Europe et on n'a même pas une voix européenne qui dise mais attendez, pourquoi n'acceptent-ils pas? Ils ont de la place, ils ont l'argent. ils ont l'espace et ils ont le savoir-faire. Voilà,
je bah vous voilà, pose la question. Comme souvent, on en arrive à la question européenne, celle de la diplomatie européenne. On sera à Bruxelles d'ici quelques jours. Ce sera peut-être l'occasion justement d'évoquer ces questions. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir participé à la discussion. Agnès Levallois, Nathalie Goulet et Pierre Connaissat. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Docteur Saoud et Mister Djihad chez Robert Laffont. Un grand merci à toute l'équipe du Grain. Fanny Richet, Isolte Sicard, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Cyril Baer. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec la prise de son David Federman. Demain, la redevance doit-elle financer les émissions de divertissement? Ce sera la question à partir de 18h20. Nous ne sommes pas concernés, du Gramoud, ça n'est pas a priori du divertissement.